Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons nous pencher sur IPv6 et les problématiques de sécurité qui y sont liées. Pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Eric Fraissinet.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Jean-Marie.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Sébastien Gioria.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors pour commencer, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous retracer l'histoire d'IPv6 dans les grandes lignes?
Donc si on remonte au tout début d'Internet, IP, donc Internet Protocol, a été formalisé dans les années 70 et la première RFC, c'est 1980 puis 1981. Et ensuite, dans les années 90, très rapidement, est venue une constatation, c'est que 32 bits pour une adresse, comme adresse, ça n'allait pas suffire, et donc il y a des travaux qui ont été lancés. 1995 et 1998 arrive le protocole IPv6, donc avec la fameuse RFC 2460, et les premières implémentations, c'est 1996, donc première implémentation expérimentale Linux sur son kernel 2.1.8, et première implémentation commerciale, ça va faire plaisir à certaines personnes, c'est IBM AX qui a porté le support IPv6. Et ensuite, sont venus tout un train...
Je corrige. Non, c'est Bull qui a fait le travail, c'est pas IBM qui a fait ce travail-là. Et c'est même Francis Dupont qui a fait le logiciel. Donc, c'est franco-français le premier IPv6 sur AX, parce que Bull, en tant que revendeur d'AX à l'époque, était aussi un très fort contributeur au niveau logiciel. Et l'IPv6, il vient de la France, il vient de chez Bull, il vient de chez nous.
Ouais, on va dire après que ça ne marche pas, Hervé, donc le dis pas trop fort. Hein.
Donc, alors pourquoi IPv6 et pas IPv5 alors, rapidement, hein, donc pourquoi IPv4 déjà? Parce qu'il n'y a pas IPv1, IPv2, IPv3 n'existent pas. Simplement parce que quand on a commencé à créer le protocole IP avec les RFC, TCP était déjà sa version 3. Donc, on a harmonisé, c'est devenu IPv4 et TCP-V4. Et ensuite, venu un protocole qui est mort-né, qui était le protocole ST, qui était Internet Stream Protocol, qui était l'ancêtre du MPLS et VoIP. Et ce qui se passe à l'IETF, c'est que même si le protocole n'a jamais été utilisé, pour éviter tout ce qui était confusion, ils n'ont plus utilisé la version 5 dans les champs, donc on est passé immédiatement à IPv6. Voilà, donc IPv6, hein, pour rappeler rapidement, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas forcément comment marche IPv6. Donc en IPv4, on avait un en-tête qui était plus ou moins variable, entre 20 et 60 octets. Et là, on a décidé de changer beaucoup de choses, hormis le fait qu'on ait beaucoup plus d'adresses. C'est déjà d'avoir un en-tête fixe, ce qui facilite beaucoup de choses. Donc un en-tête IPv6, c'est 40 octets, et on n'en parle plus. Et ensuite, tout le reste est dans des extensions. Et là, on parle d'un train. C'est-à-dire qu'en fait, je mets mon en-tête, 40 octets, et ensuite, je colle des extensions. Alors, on va commencer déjà la première partie drôle sur la sécurité. C'est qu'au tout début, il n'y avait pas de limite, il n'y avait pas d'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, je pouvais mettre 10 fois
Oui, mais ça, c'est pas nécessairement un problème de sécurité. C'était surtout un problème de rapidité. C'est-à-dire que tu pouvais pas fabriquer un commutateur avec des composants préprogrammés pour décoder à très très haute vitesse et donc à très très haut débit les paquets. Parce que tu devais nécessairement analyser le contenu du paquet pour voir dans quel ordre étaient les champs et quelle était la longueur de chaque champ et de chaque option et de chaque extension. Donc c'était, pour moi, ça c'était surtout quelque chose qui ne permettait pas à IPv6 de marcher à plusieurs gigabits et donc qui le rendait complètement inopérant d'un point de vue fonctionnel, avant même de parler de sécurité.
Oui, tout à fait, parce que de toute façon, au bout d'un moment, on commence à fragmenter. Et le problème, c'est si on veut regarder toutes les extensions, enfin toutes les header extensions, du coup, en fait, il va falloir commencer à commencer à garder beaucoup de choses en mémoire. Et donc, en fait, ce que font les routeurs, pour aller très vite, en fait, ils regardent les quelques premiers headers et ensuite, ils laissent passer. Donc, ce qu'on pouvait faire, par exemple, c'était de mettre une option, par exemple, un routeur alerte. Ce qui, en fait, le routeur alerte, c'est simplement pour dire attention, j'ai quelque chose pour toi. On le mettait tout à la fin, et donc c'était pas forcément traité par le routeur, mais forcément traité par le hôte à la fin. Voilà. Donc il y avait des petites choses comme ça, et IPv6 a été complété au fil du temps. Alors du coup, j'ai regardé un peu parce que du coup, on m'a dit qu'on avait parlé d'IPv6, j'ai regardé un peu. IPv6, en fait, on part aux toilettes, on revient, il y a eu une RFC, c'est fantastique. Donc par exemple, si on prend juste l'année 2015, on va revenir un peu en arrière, c'est 7 nouvelles RFC. 2014, c'est 28. 2013, 31. 2012, 40 RFC. 2011, 45. 2010, 26. 2009, 13. Et 2008, 20. Je me suis arrêté là de compter. Ce qui veut dire, c'est que en permanence, il y a des RFC qui arrivent, qui ajoutent des fonctionnalités, qui corrigent certains problèmes ou qui en rajoutent. Et du coup, ça pose un vrai problème, c'est l'implémentation. Parce qu'aujourd'hui, on a une implémentation qui est très, très, très hétérogène. Et en plus, un gros problème des RFC IPv6, c'est qu'elles sont extrêmement permissives. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on va lire, on va commencer à lire les RFC, on va avoir énormément de should. Alors, il faut savoir que dans une RFC, un document IETF, vous avez deux types de recommandations, enfin d'exigences de recommandations. C'est le shall, ou must, et le should. Donc, le must, ça doit être implémenté, normalement, parce que déjà, c'est pas gagné. Et le should, ça, c'est un conseil. Mais alors là, du coup, vous passez en dernier. Et le problème, c'est que de façon à... Puisqu'IPv6 était déployé relativement lentement, lorsqu'on a commencé à prendre en compte la sécurité, les RFC qui sont venus pour spécifier des choses, les préciser, en fait, comme elles ont pris en compte cette problématique d'implémentation, elles ont beaucoup, beaucoup utilisé le terme should. Typiquement, il y a une RFC qui va dire « voici l'ordre des headers ». Elle est optionnelle, c'est recommandé, c'est pas obligatoire. Et il y a une RFC qui va vous dire « si vous voyez tel header, c'est pas bien, mais vous n'avez pas le droit de les jeter ». Voilà. Donc, typiquement, alors, ça, ce genre de choses, du coup, c'est ce qu'on appelle implementation dépendante. C'est-à-dire que du coup, il va falloir aller voir sur l'équipement que vous avez, votre routeur, votre pare-feu, votre customer premise equipment, comment est-ce que lui réagit quand il voit passer ce genre de paquet. Donc, quand vous avez un réseau très large et hétérogène, parce que vous avez plusieurs constructeurs, et ben, potentiellement, sur un équipement, vous allez avoir un comportement sur un type de paquet, un type de règle que vous allez mettre en place, et sur un deuxième équipement, parce que soit c'est le constructeur qui a fait ce choix de ne pas implémenter la RFC, soit parce qu'en fait vous êtes à une version qui n'implémente pas encore la RFC, voilà, ou alors la RFC est carrément incomplète, c'est-à-dire qu'elle n'implémente qu'une partie. Donc ça, c'est un gros, gros problème, on va dire, aujourd'hui sur le déploiement IPv6. Et alors pourquoi j'ai insisté un tout petit peu pour parler de l'histoire d'IPv6, parce qu'aujourd'hui quand on se pose un problème, on se pose le problème avec les questions de notre époque. Donc on repart en 1990, Internet grand public n'est pas encore vraiment là. On est plutôt dans des phases d'industriels, d'universitaires, etc. Et il y a des modèles de confiance qui sont ceux de 1990. C'est-à-dire, le réseau local, c'est un domaine de confiance, personne ne m'attaque parce que c'est mon université, c'est mon entreprise. Au pire, sur le chemin, on peut regarder ce que je regarde, ce que je vois, mais pas beaucoup plus. Et la crypto va me sauver. Donc ça, c'était les grandes orientations des années 1990. Alors ça a vraiment quelque chose, une implication très très forte, parce que du coup, le protocole IPv6 est extrêmement optimisé. Optimisé en termes de messages et en termes de possibilités. Il est très orienté réseau. Alors, simplement pour la petite histoire, dans la première version, en fait, il y a plusieurs façons de configurer une adresse IPv6. Bon, en statique, hein, je la configure à la main, on n'en parle plus. Il y a ce qu'on appelle le SLAC. Le SLAC, c'est-à-dire le Stateless Auto Configuration. Le stateless auto configuration, en fait, ce que vous allez faire, alors il y a plusieurs façons, mais on va prendre la plus simple, c'est que au tout début, vous allez prendre en fait le scope link local. Le link local, c'est l'équivalent de l'IP 169.254. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez générer ce link local en prenant votre adresse MAC. On va prendre le cas le plus simple. Vous prenez votre adresse MAC, vous mettez, elle fait 48, donc vous mettez 24 d'un côté, vous mettez FF, FE au milieu et vous remettez les 24 derniers. Voilà. Et donc là, ça vous donne votre adresse link local. Donc là, on voit déjà, on va avoir un problème de privacy. C'est qu'en 1990, avoir une adresse, alors pour l'instant, c'est que le link local, donc en gros, c'est vraiment ce qu'on appelle ULA, Unique Local Address. Et après, quand vous allez avoir ou pas un router advertisement, là, par contre, vous allez passer sur ce qu'on appelle la GUA, qui est la Global Unicast Address. Et ça, c'est l'IP public. C'est l'équivalent de l'IP public. Donc, on voit déjà qu'une interface, elle va avoir plus d'une IPv6. Quand elle est configurée complètement, elle a 2, 3, voire, en fait, il n'y a pas de limite. Donc, on peut s'amuser à avoir autant d'IP qu'on veut. Voilà. En IPv6...
Un peu comme IPv4, hein, d'ailleurs, sur une seule interface, tu peux mettre autant d'adresses IP que tu veux.
Ouais, totalement, ouais, totalement.
Il y a quand même moins d'adresses en IPv4.
Tu peux
En IPv6, tu peux t'amuser à changer d'adresse pour chaque connexion TCP, si tu veux.
Voilà, alors sachant qu'après, on a en IPv6, le concept de netmask n'existe pas. On a le concept de, on va dire, de préfixe. Alors, le préfixe, en fait, c'est les fameux /64, /48, etc. En fait, pour simplifier, c'est le nombre de 1 que vous avez dans votre netmask. Donc, si vous avez /64, il y a 64.1 et du coup, les communes adresses 128 bits, IPv6 fait 128 bits, et ben du coup, il vous reste 64. Donc, ça, c'est une première difficulté, de comprendre comment marche le protocole IPv6. Comment est-ce que j'en viens à avoir cette adresse qu'on appelle l'unique local adresse? C'est que, en fait, ça se fait pas. Là, je l'ai résumé très, très rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai dit, je prends mon adresse MAC et puis ça marche. Non, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'en gros, je vais faire ce qu'on appelle du DAD, du Duplicate Address Detection. C'est-à-dire qu'en gros, je vais prendre mon adresse MAC et je vais utiliser le protocole ICMP qui est extrêmement utilisé en IPv6 au point que vous ne pouvez pas le bloquer. Alors qu'en IPv4, la première chose qu'on apprend, c'est à le bloquer. Mais en fait, en ICMP v6, vous ne pouvez pas vraiment. Tout ce que vous pouvez faire, c'est descendre dans les paquets et bloquer certains types de messages. Parce qu'il y en a, vous n'avez pas le droit de les bloquer, ou alors ça va vraiment dégrader les performances du réseau, ou alors ça va même poser des problèmes. Typiquement, dans l'ICMP, dans les messages ICMP, il y a le fameux packet too big. Alors,
ça, c'est sympa, ça. On ne peut pas faire des réencapsulations assez rigolantes avec ça.
Bon, on peut faire beaucoup, 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 beaucoup de choses. Effectivement, on peut vraiment s'amuser à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors après, on pourra en discuter pendant des heures. Récemment, là, il y a eu Troopers. Troopers, ils ont fait une session IPv6. C'est deux tracks en parallèle pendant plus d'une journée à parler que de la sécurité IPv6. Alors, faut savoir que le hasard du calendrier fait bien les choses. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas. En tout cas, faut savoir que le 7 septembre, en fait, il va y avoir le Global IPv6 Next Generation Internet Summit à Pékin. Donc normalement, pendant qu'on écoutera ce podcast, il y aura le IPv6 Next Generation Internet Summit.
Et on parle de quoi dans ce genre de summit?
De tout, de l'adoption, il y a des gens qui vont venir parler de sécurité, il y a des constructeurs qui vont venir parler de...
J'ai peut-être une vision biaisée, mais à mon expérience, il y a quand même un aspect prosélytisme, dogmatisme, qui n'est pas négligeable et qui nuit d'ailleurs à IPv6.
Mais ça, c'est vrai dans toutes les conférences, non? Les gens qui vont, ils sont convaincus. Enfin, si tu es prêt à payer le billet d'avion pour aller jusque là-bas, c'est que tu es convaincu par ce que tu veux entendre.
Ah, pas du tout. Il y a des conférences où il y a des opinions très différentes sur des sujets, y compris dans le monde de la sécurité, de la vie privée, etc. Et où les gens qui ont tous payé le billet d'avion et qui sont sur place ne sont pas du tout d'accord entre eux.
Ok. T'en connais,
nous on a parlé une fois dans une conférence IPv6, on s'est quand même fait jeter avec une violence inouïe. On est venu m'expliquer que c'est des choses qui se font pas et que ce qu'on a dit ouvertement lors de la conférence, c'est pas moi qui l'avais dit, c'était Nicolas Codignon, hein, c'est des choses qui ne se faisaient pas, etc. Enfin, je veux dire, non, attends, le monde IPv6, ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes.
Je pense qu'en fait, on pourrait troller longtemps là-dessus. Je pense qu'une des plus grosses erreurs, enfin, pas forcément une erreur, mais une des causes de là où nous en sommes aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été assez fameux, c'est il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire que on vous livre le protocole, il n'y a pas assez d'adresses, il n'y a pas de plan B, donc dont acte. Vous le faites pas, mais de toute façon. Et ce qu'ils ont sous-estimé, c'est que IPv6 est tellement complexe, et les gens qui disent qu'IPv6 c'est simple, c'est qu'ils n'ont pas vraiment lu les RFC. Je vous dis, il y a plus d'une centaine de RFC simplement dans les 5-4 dernières années. Du coup, l'implémentation, ça fait extrêmement peur. Et en plus, on arrive dans des cercles vicieux absolument énormes. C'est moi, client, j'implémente pas IPv6 parce que, l'implémentation n'est pas mature. Mais moi, constructeur ou développeur, je ne vais pas m'embêter à supporter IPv6 parce que de toute façon, personne ne l'utilise. Et du coup, on arrive à des effets de saturation parce que malgré tout, les objets connectés explosent. Et du coup, les fournisseurs d'accès, les entreprises, elles commencent à faire ce qu'on appelle le CGN, hein, c'est le Carrier Grade Network Address Translation. Elles commencent à réutiliser les IP à plusieurs endroits, etc. Et là, on arrive à une espèce de tricotage d'Internet absolument énorme.
Ouais, enfin, c'est ce qui passe en Chine, ça marche pas si mal. Enfin, il y a des endroits où tu accèdes
malheureusement, au
vrai Internet à travers trois couches de NAT. Quoi.
Ah, mais malheureusement, ça se passe pas si mal que ça. C'est-à-dire que du coup, les gens se disent, si ça se passe pas si mal que ça, puisqu'en plus on est passé d'un paradigme, on va dire layer 2, où en fait c'est Dieu sauve le réseau, à un paradigme layer 7, où en gros c'est tout en over the top au niveau applicatif. In fine, c'est compliqué. Du coup, les gens n'ont pas forcément de motivation à. Et en fait, encore une fois, je retombe sur cette boucle un peu vicieuse où pourquoi est-ce que je m'embêterais à supporter ? Parce que de toute façon, IPv4 marcherait bien et que de toute façon, même si les clients eux-mêmes n'auront plus d'IPv4, les serveurs seront toujours joignables en IPv4.
Ouais, donc, c'est pas un peu le contraire qui se passe aujourd'hui ?
C'est-à-dire ?
Il y a quand même énormément de serveurs en IPv6 et pas encore beaucoup de clients en IPv6.
Oui.
Globalement, hein.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un serveur aura toujours une IPv4. Il sera souvent en dual stack, ce qui peut souvent poser des problèmes. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le API eyeball, où en gros, le eyeball, c'est si je suis en dual stack, je suis un ordinateur en dual stack, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mes deux sockets en parallèle, et la première qui répond, elle a gagné. Donc, si c'est IPv6, c'est IPv6, si c'est IPv4, c'est IPv4. Il y a des navigateurs, par exemple Chrome, lui, en fait, il privilégie quand même IPv6. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord ouvrir la socket IPv6, il va attendre 300 millisecondes, et si la socket n'est pas établie, ce qu'il va prendre les résolutions DNS, il va mettre IPv6 en bas, et il va ouvrir la socket en commençant par la première IPv4.
Au passage, sur ce point-là, il n'y a pas dans DNS, dans le protocole DNS, un ordre de priorité. On ne te dit pas préférer l'adresse IPv6. Je ne sais pas. Hein.
Alors, c'est côté client, en fait. Après, c'est toi qui vois. Tu peux retourner. Alors après, c'est la façon dont les gens vont configurer leur serveur DNS. Tu verras, des fois, tu verras. En plus, c'est aussi le client DNS qui va te répondre, etc. Donc, ça dépend. Normalement, IPv6 est censé être préféré. Alors, ce qui est super drôle et ce qui pose un vrai gros problème de sécurité, c'est qu'aujourd'hui, tu arrives dans une entreprise où ton PC chez toi, il est dual stack.
Oui.
D'accord ? Le truc, c'est que en fait, il est dual stack, c'est-à-dire qu'il a son adresse, il a fait son, il a monté sa petite IP tranquille, donc il est tout seul et il attend. Alors, de temps en temps, en plus, tu vois passer ce qu'on appelle des routeurs solicitation, en disant « est-ce qu'il y a quelqu'un pour moi ?» Et donc ça, c'est extrêmement optimisé, parce qu'en fait, si jamais il y a une machine dans le réseau qui envoie sur le scope link local, bah, moi, je suis un routeur, bah, il devient routeur par défaut. Et comme c'est IPv6 qui est préféré, plutôt que de s'embêter à faire de l'ARP spoofing comme un bourrin, à se faire choper par tous les ARP monitors qui tournent, en un paquet, j'ai routé un réseau d'entreprise. Et aujourd'hui, et aussi on a d'autres problématiques, typiquement, j'ai des serveurs qui sont en dual stack, j'ai configuré mon Linux, par exemple, par défaut, aujourd'hui, mon Apache ou mon Tomcat, etc., eux, ils se bindent sur toutes les interfaces, donc IPv4, IPv6, et puis, moi, administrateur, je configure qu'IPv4. Sauf qu'un jour, quelqu'un dans l'entreprise active IPv6 sur le routeur. Le routeur, lui, il est gentil. Ce qu'il va faire, c'est un routeur advertisement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que mes routeurs vont se configurer s'ils sont en Slack. Malheureusement, si moi, administrateur, je n'ai pas pensé à ça, j'aurais peut-être pas pensé à mettre en place des ACL IPv6. Et on peut se retrouver avec des entreprises qui ont mis des ACL IPv4, et quand vous allez taper sur leurs adresses IPv6, il n'y a pas de filtrage. Donc ça aussi, c'est un des risques du non-déploiement, on pourrait dire, un peu d'IPv6, c'est que les routeurs sont dual stack, les serveurs sont dual stack, mais on va dire que les administrateurs ne le sont pas.
Mais encore faut-il que leur provider leur file l'IPv6 pour pouvoir aller les attaquer.
Alors quand on parle de serveurs, honnêtement, tous les fournisseurs d'accès fournissent de l'IPv6. Hein. J'en connais très très peu qui ne fournissent pas d'IPv6. On parle bien de services professionnels, c'est-à-dire sur des serveurs.
Et concernant la première problématique que tu as évoquée, la passerelle par défaut qui changerait, c'est uniquement dans le cas où la passerelle par défaut n'a pas été fixée ou
Oui, elle n'a pas été fixée en fait. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est que tu fais ton link local. Et ce que tu vas essayer, c'est d'avoir des informations de routage. Et du coup, tant que personne répond à tes router solicitation ou que personne n'envoie de router advertisement, ton IPv6, elle vit. Mais elle ne bouge pas, en fait. Du coup, tu n'as pas de route, tu n'as rien, tu n'as pas de gateway, tu n'as pas de configuration DNS. Donc, la configuration DNS, généralement, tu l'as déjà par IPv4, hein, autant pour moi, mais du coup, en fait, ton IPv6, elle est comme ça, en fait. Elle voit ce qu'on appelle le trafic multicast qui passe sur le link local, les fameux F0, etc. Quoi. C'est un problème. Donc, du coup, aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait mieux configurer IPv6 ou le désactiver que plutôt de le laisser comme ça. Uniquement, honnêtement, il y a des outils qui sont extrêmement bien faits pour faire ça. Il y en a deux. Il y a le toolkit, parce que ce sont des toolkits. Il y a deux toolkits, c'est le toolkit de THC, de Hacker Choice, qui s'appelle IPv6, THC IPv6 toolkit, il me semble, et le toolkit qui est fourni par Fernando Gont, un des très gros contributeurs de RFC sécurité, notamment sur tout ce qui est privacy des adresses IPv6 à une époque, qui est SI6 Network IPv6 Toolkit ou quelque chose comme ça. Et là, par contre, au niveau attaque, en IPv6, on est relativement bien équipé. Donc, il est relativement facile soit d'empêcher la configuration d'un réseau IPv6. Pourquoi ? Alors, c'est pour ça que je disais, c'est compliqué de parler d'IPv6 en 30 minutes. Hein. Vous connaissez la blague de « j'ai lu Guerrepé en 20 minutes, ça parle de Russie ». Ben, IPv6, voilà, j'ai parlé d'IPv6 en 30 minutes, ça parle d'insécurité. Voilà.
Mais quand tu dis quand même que les serveurs ont IPv6, pour moi, aux dernières nouvelles, ni les instances, ni Amazon EC2, ni Azure, ni Google Compute Engine proposaient d'avoir de l'IPv6 sur ces serveurs. Hein. Donc j'ai l'impression que ça se déploie plus chez les opérateurs qui maintenant offrent à peu près dans tous les pays des adresses IPv6 à leurs clients. Pas forcément de l'IPv6 natif, hein. D'ailleurs des fois il y a des astuces. Où ils font, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, en gros, tu récupères un slash 48 à la fin et pas un slash 64. Par contre, au niveau serveur, c'est pas du tout évident que les infrastructures majeures soient accessibles en IPv6. Enfin, quand tu vois que les trois plus gros fournisseurs de cloud supportent pas IPv6, ouais.
Alors, là, je t'avoue que pour Amazon, je peux pas trop en parler, je n'utilise pas du tout.
Non, mais enfin, c'est info au public, hein, je veux dire.
Moi, j'ai la même impression que Nico, c'est que IPv6, on en parle beaucoup. Tout le monde dit, ouais, ça fait 15 ans qu'on se dit qu'il faut qu'on migre de IPv4 à IPv6 parce qu'il n'y a plus d'adresse IP, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est pas super déployé, quoi. Enfin, c'est
non, parce
chez
que
chez les opérateurs, c'est déployé parce que il faut qu'ils soient prêts au moment où tout le monde va arriver. Mais en dehors de ça, les serveurs en IPv6, il n'y en a pas tant que ça.
Ouais. Alors, chez les opérateurs, c'est déployé. Alors, on peut parler plus largement des fournisseurs d'accès, hein, parce qu'il n'y a pas que des opérateurs. Eux, ils sont soit en IPv6 natif. Alors là, leur backbone et leur dorsale Internet est en IPv6. Soit souvent, ils utilisent du transport sur MPLS. C'est-à-dire qu'en fait, ils font passer tout le trafic IPv6 dans des tunnels MPLS V4. Soit ils utilisent des protocoles genre 6-to-4 ou 6-to-4RD, ou qu'on appelle aussi 6RD, qui est très connu, puisque RD, ça veut dire Rapid Deployment, et qui permet de faire de l'IPv6 pour un fournisseur d'accès au travers d'un backbone IPv4. Donc, il y a aussi des astuces, et le problème, c'est qu'il y a tellement d'astuces, il y avait tellement de choses qui ont été faites pour essayer d'accompagner ces choses, c'est-à-dire que les gens ne sont pas montés en compétences. Et du coup, c'est vrai que le ticket d'entrée pour comprendre vraiment la sécurité d'IPv6 est relativement haut, parce que d'abord, il faut comprendre comment marche IPv6, il faut comprendre qu'on a des configurations donc fixes, du stateless, donc le fameux slack, on a du stateful, etc. Ensuite, on peut, et je parlais un peu de cette fragmentation, il y a une fragmentation qui est absolument énorme dans le monde IPv6 à cause du support des RFC. Alors, la chose la plus flagrante, c'est le support de DHCP. C'est-à-dire que le problème de Slack, c'est qu'en fait, mon équipement va se configurer tout seul et moi, administrateur réseau, donc soit fournisseur d'accès, soit d'entreprise, eh ben, je ne sais pas à qui j'ai donné cette adresse parce que finalement, elle est où ? Je n'ai pas de repository, je n'ai pas de liste, je n'ai pas de base de données. Donc, soit j'ai un équipement qui va écouter tout ce qui est neighbor advertisement, neighbor solicitation, et qui je vais essayer de me monter une base de données, soit je vais faire du DHCP V6. Donc, le DHCP V6 est arrivé seulement, la RFC, la 3315, elle est arrivée en 2003. Donc, tout le monde s'est dit, ben, c'est pratique, si j'ai un gros réseau, je vais faire plutôt que du Slack, je vais faire du DHCP V6. Slack ne permettait pas de configurer les DNS. C'est-à-dire que j'avais beau avoir du stateless, à la fin, je me retrouvais avec une IP, une route par défaut, mais pas de serveur DNS. Donc, si j'étais pas en dual stack, eh ben, j'étais coincé. En 2010, est arrivé ce qu'on appelle RDDNS. En gros, c'est Router Advertisement for DNS Configuration. Donc, ça, c'est 2010, RFC 6106. Et donc qui permet de rajouter cette fameuse configuration des DNS dans le Slack. Donc le monde entier a migré, les gens qui ont déployé IPv6 relativement tôt, eux ils ont déployé des équipements qui géraient DHCP V6, etc. les entreprises, parce qu'ils se préparaient à tout ça. Arrive, alors sans le nommer, un fabricant de kernel pour téléphone mobile qui a dit moi non, j'utiliserai pas DHCP V6, ça sera RDDNS. Donc vous avez 80% du parc du mobile qui aujourd'hui n'utilise pas ce qui est utilisé par les fournisseurs d'accès. Ce qui pose un vrai problème, c'est-à-dire que du coup, vous devez avoir des équipements réseau pour configurer les user equipment qui supportent et DHCP V6 et RDDNS. Parce que vous avez d'autres équipements end user qui, eux, ne supportent pas RDDNS. Et là, du coup, ça fait, ça fait beaucoup de protocoles sur un seul équipement, etc.
On revient au problème de IPv6, qui est le déploiement, quoi qu'on en dise. Comme on avait au tout début Windows qui supportait pas IPv6, qui a fallu attendre je ne sais plus quelle version pour avoir une stack V6, c'est aussi ce qui a fait que ça ne s'est pas déployé. Alors après, on n'est pas là pour parler, troller sur ça se déploie pas, mais c'est aussi ça qui pose des problèmes et qui a posé des problèmes.
Oui, mais en même temps, quand on a besoin de quelque chose, on le déploie. Soyons clairs, quand les gens sont demandeurs, les gens l'utilisent. Là, IPv6, malheureusement, là, on parle de 2015, on arrive à la fin d'IPv4. Il y a du CGN de partout, on réutilise certaines IP publiques plusieurs fois parce qu'on change de zone géographique. Et ça tient. Et le problème, c'est que ça tient. Et du coup, ça tient, ça marche. Et de l'autre côté, j'ai IPv6, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Aujourd'hui, vous regardez les vulnérabilités, vous prenez une base CVE sur le protocole IPv6, y en a beaucoup, quoi. Puis c'est du crash, au mieux c'est du dénial de service. Souvent, c'est genre bypass totalement de toutes les règles de sécurité sur des routeurs. Typiquement, en gros, il y a un routeur qui ne savait pas qu'il pouvait recevoir des paquets depuis Internet avec une provenance de son lien à lui. Et donc, du coup, il pensait que le paquet était local, ce qui permettait de contourner certaines règles de filtrage. Et ça, quand vous êtes quelqu'un qui déploie, ça vous fait un peu peur. Alors, je ne peux pas parler pour tout le monde, moi, c'est ce que je pense. Hein. IPv4, ça marche. L'implémentation, elle est stable. Je n'ai pas de buffer overflow. En plus, chaque fois que j'active IPv6 sur mon routeur, potentiellement, s'il y a une vulnérabilité, mon routeur, il va tomber et il va entraîner IPv4 avec lui. Ou alors, je suis riche et j'ai un routeur pour IPv4, un routeur pour IPv6. Ça arrive pas tout le temps. Et ça, c'est par exemple, s'il y a des recommandations, il y a des entités qui disent, il faut deux routeurs, un pour IPv4 et un pour IPv6, parce que IPv6, on ne sait pas trop comment ça va marcher.
Alors, tu dis que pour le moment, ça tient. Selon toi, l'avenir, c'est quoi ? On va continuer finalement comme ça, avec du NAT, de NAT, ou bien on va se tourner vers autre chose, puisqu'il semble qu'on ne puisse pas adopter IPv6. Comment ça va évoluer ?
Bien, bien malin qui pourra le dire. Déjà, il faudrait... pour qu'on change d'IPv6, c'est-à-dire qu'on dise, IPv6, on n'y arrive pas, il faudrait qu'on arrive à surmonter la nature humaine et qu'on arrive à surmonter cette incapacité pour les groupes à admettre leur erreur collective. C'est-à-dire, le protocole qu'on a fait, il était bien pour 1990, il ne répond plus à 2015, et bien on passe à autre chose, et tant pis. Mais là, du coup, le problème, c'est que vous avez tous les gens qui ont investi dans IPv6, ils vont vous sauter à la gorge. C'est compliqué. C'est admettre qu'on a fait pendant 20 ans une erreur, qu'on aurait mieux fait de faire comme de passer directement IPv8, puisqu'IPv7 était déjà pris. IPv8, c'est compliqué. Et honnêtement, c'est plus simple.
C'est pas beaucoup du logiciel. Est-ce que c'est si compliqué que ça ?
Après, ça a mis 25 ans à venir. On peut supposer que c'est un peu compliqué, quoi. Mais
non, mais au sens où ça remet pas forcément en cause des équipements.
Oui, il y a quand même des équipements qui font du routage en hardware.
Oui.
Il y a beaucoup d'ASIC. Il y a beaucoup d'ASIC. Et l'ASIC, son adresse, elle est 32 bits. Mm-hmm. Et du coup, on est en train de dire, maintenant, elle est en 64 bits, en 128 bits, pardon. Et ce qu'il fait, c'est que il va être compatible, sauf qu'en fait, dès qu'il va avoir une adresse en 128 bits, il va la faire passer au CPU. Et le CPU, il n'est pas fait pour traiter 10, 40, voire plus en gigabits seconde. Et du coup, alors c'est pour ça qu'on fait l'encapsulation IPv4. Alors, ça va arriver, honnêtement, aujourd'hui, je vois mal l'IETF dire elle n'a déjà pas fait pour des DNSSEC, elle n'a pas fait pour les autres protocoles, je ne la vois pas dire, IPv6. C'était un coup dans l'eau, honnêtement, bien malin qui pourra dire ce qui va se passer. Je pense qu'on va y arriver, IPv6, qu'on va essuyer les plâtres, qu'on est reparti comme en 1999 avec les teardrops, les trucs comme ça, ça va être génial. Hein. Donc nous ne serons pas au chômage, messieurs.
Et mesdames qui nous écoutaient.
Et mesdames. Oui. Et là, je parlais pour ceux qui étaient autour du micro.
Et ça ne serait pas, à ton sens, les objets connectés qui vont permettre de forcer les gens à y aller, parce que si tu commences à déployer un bouton de store qui est connecté sur Internet, un frigo, un micro-ondes, etc.
Alors, bien sûr, non, mais réfléchis, Sébastien. Je réfléchis. Le bouton de frigo, il n'a pas besoin de parler en direct et de voir en direct la totalité des autres boutons de frigo. Le problème d'IPv6 sur le manque d'adresse IP, c'est qu'il n'y a pas de killer application. Aujourd'hui, les affaires de la maison, elles parlent aux autres objets de la maison. Et pour parler à l'extérieur, ça va passer par un boîtier d'accès qui n'aura aucun problème à traduire les adresses. C'est pareil dans une voiture. Le moteur de la voiture, il a peut-être besoin de parler à la boîte de vitesse, mais a-t-il besoin de parler au moteur de la voiture qui est à côté ? Même lorsque les voitures se parlent entre eux.
La question, ce n'est pas est-ce qu'il a besoin, mais est-ce qu'on ne va pas justement faire en sorte qu'il ait besoin ? T'as bien aujourd'hui quand même.
Aujourd'hui, il n'y a pas de killer application.
Il y a quand même des frigos qui sont connectés sur le net.
Mais ça ne change rien. Ils ont pas besoin de
IPv6. C'est juste une. Et puis c'est juste une tablette sur un frigo. Hein.
Oui, mais bon. C'est pas non plus. On ne sait pas ce qu'ils vont nous inventer.
Non, mais honnêtement, tout ce qui est explosion du mobile, du fameux Internet of Things.
Ce qui est intéressant avec l'IPv6, c'est l'autoconfiguration. C'est-à-dire que là, ça répond à un besoin ergonomique. Donc, on est d'accord, hein, on n'est pas dans la sécurité, on est plutôt dans l'insécurité. Mais l'autoconfiguration d'IPv6 répond à un besoin d'ergonomie des objets qui se découvrent entre eux, qui se parlent entre eux. Et c'est très important que la poupée du gamin puisse découvrir qu'il y a une autre poupée d'un autre gamin de l'autre côté du mur, que les poupées se parlent entre elles. Non, mais c'est ça, des objets connectés. Donc, là, effectivement, on peut imaginer. Mais ah ben non, il n'y a même pas besoin que chacun ait une adresse IPv6. Ils vont se découvrir et puis ils vont se parler au travers des traductions IPv4 de chaque maison. Donc,
Et la découverte, elle est surtout géographique essentiellement. Enfin, quand absolument. Tu dis les moteurs et boîtes de vitesse, ils sont dans le même ensemble. Donc, en fait, derrière, c'est du Bluetooth Low Energy ou des trucs comme ça qui sont utilisés. T'as personne qui se parle dans le même appartement en passant par Internet. En termes de latence et... Enfin, imagine la poupée de ton gamin, il prend dans la voiture, il perd Internet, s'il peut plus jouer avec son petit frère, c'est la mort. Donc, ça peut dépendre que d'un réseau local, mais pas.
Attention, en IPv6, tu as le fameux link local, hein. C'est-à-dire que là, tu ne parles que sur les IP de ton lien.
Et non, mais là, ce qu'on veut dire, c'est que ça marche. Toute cette vie moderne, elle marche sans IPv6 et sans les adresses IPv6. Et donc, ça n'est pas cette vie moderne qui est l'application qui va justifier le manque d'adresses et de passer à IPv6. Mais d'autres choses peuvent le justifier, hein, attention. Hein.
Oui, l'Internet des objets, pour le coup, c'est un autre sujet. Puisque, de toute façon, ils vont communiquer et c'est le fait qu'ils communiquent qui pose question.
Oui. Il y a quand même un problème fondamental dans ces histoires d'application. Je pense qu'au niveau client, il y a quand même beaucoup de gens qui supportent IPv6. Tous les téléphones modernes, enfin tous les smartphones, tous les OS un peu récents, ne serait-ce qu'avec cette directive là du gouvernement américain qui disait que tout ce qu'ils achètent doit être compatible IPv6, je sais plus si c'était en 2013 ou 2012. Mais par contre, à la couche d'au-dessus, il n'y a rien qui fait d'IPv6. Enfin, je veux dire, tu prends, je sais pas, si on reste dans la sécurité, des consoles de supervision, des trucs où tu mets des regex pour lever des alertes, des conneries comme ça.
Ah, sur Ikata, gère.
Ouais, mais c'est un composant de base. Je veux dire, c'est juste un truc qui prend des paquets et qui les remonte à une couche supérieure. Mais quand ton paquet il arrive dans une base MySQL, combien il y a de bases SQL qui ont un champ IP qui est dimensionné sur 4 chiffres ?
À les bases clients, effectivement, si tu commences à stocker... Mais effectivement, ça pose des gros problèmes. Ça pose des gros problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, souvent, les serveurs web, eux, ils sont IPv4 avant tout. Moi, je pense que ça viendra avec le temps. Maintenant, honnêtement, je ne sais pas qui peut dire quand, comment, et voilà. En tout cas, ça va être moche. En tout cas, ça va être long et moche. Ouais, ça va être long et moche. D'un point de vue sécurité, et quand les entreprises vont commencer. D'ailleurs, moi, je suis toujours étonné qu'il n'y ait pas des entreprises qui aient annoncé qu'elles s'étaient fait complètement avoir parce que quelqu'un avait apporté. son équipement perso IPv6 enable et que l'équipement perso avait fait un router advertisement, quoi.
Alors, supposons qu'on est vraiment dans la situation que tu décris, ce qui a l'air d'être le cas, hein, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse aujourd'hui avec les moyens qui existent pour se protéger? C'est quoi les tâches minimum à mettre en œuvre?
Filtrer IPv6 et le désactiver partout où tu peux.
Alors ça, c'est une solution dans des réseaux où tu peux le faire, ouais.
Ouais.
Non, mais... c'est des réseaux d'entreprise, c'est des réseaux de nos clients.
Oui.
Alors, c'est toujours un vœu pieux, hein, ce fameux la formation. Hein, on le met toujours en socle, etc. Mais je pense déjà que si on formait les administrateurs et si on remettait un peu de savoir-faire dans les administrateurs d'entreprise et réseaux, et qu'on commençait à configurer correctement. Après, ce qu'a dit Hervé, c'est un constat d'échec, mais c'est pas forcément faux. Peut-être que la solution, c'est de désactiver. Là, par contre, moi, j'ai jamais vu d'entreprise. Enfin, je vois des recommandations passer sur le fait de désactiver IPv6. Est-ce qu'il y a des entreprises qui désactivent IPv6 clairement? Je ne sais pas.
Et quand t'as filtré, il faut rajouter des équipements, puisque pour le coup, il n'y a pas d'équipements qui font ça nativement.
Si tu désactives sur ton routeur ou sur ton firewall IPv6, je te rassure, les paquets ils passent pas. Hein.
D'accord,
mais tu peux toujours te à la décharge de d'Eric, même si ton routeur à toi il est désactivé en IPv6, moi attaquant sur le réseau privé de l'entreprise, je peux toujours envoyer un paquet router advertisement et ensuite faire du 6-to-4, c'est-à-dire qu'ensuite je fais du NAT d'IPv6 où là je vois passer toutes les machines et moi je sors en IPv4.
Donc, oui, en plus c'est toi qui maîtrise la sortie.
En plus c'est moi qui maîtrise et en plus c'est bien le protocole est bien fait, c'est-à-dire qu'en plus je suis pas obligé de devenir la passerelle par défaut pour tout. Je pourrais devenir la passerelle par défaut que pour certaines routes en IPv6.
Donc finalement, il y a plus de gens sur le réseau Tor que sur le réseau IPv6.
J'en sais rien.
C'est quoi les chiffres de déploiement là?
Parce il y a des utilisateurs des deux, hein, parce que IPv6, ça, c'est aussi très utilisé. Ah bah tiens, justement pour les botnets, hein, donc c'est aussi comme c'est une manière de contourner. Je pense qu'il y a des gens qui sont à la fois utilisateurs de Tor et d'IPv6.
Non mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est quoi l'évolution de la population d'utilisateurs IPv6? Est-ce que ça augmente ou est-ce que ça stagne ou est-ce que ça prend un coup quand il y a un nouvel OS qui sort ou c'est quoi là?
Le support IPv6 lui-même, en termes de on va dire d'OS supporté, etc., augmente significativement. En termes de volume, hein, il a explosé à un moment parce que beaucoup de gens hébergeaient des serveurs torrents sur des serveurs qui étaient capables de faire de l'IPv6. Et comme c'est IPv6 qui est préféré, ça fait exploser le volume. Mais en termes de volume pur sur Internet, ça reste extrêmement faible. Ça reste très très faible. Et en plus, souvent, justement, on est sur des protocoles en avance de phase qui sont pas vraiment utilisés par le grand public. Aujourd'hui, je suis pas sûr que le volume de bande passante YouTube en IPv6 soit extrêmement important, par exemple.
Il y a des chiffres, hein, sur le le site du Syslab de Cisco. Et donc, en France, on serait à 5,6% d'utilisateurs pour un déploiement qui est autour de 32% en moyenne. Et en Allemagne, ils sont à 18% d'utilisateurs pour un déploiement à 42%. Et juste pour regarder les États-Unis, Amérique, ils sont à 21,2% d'utilisateurs pour un déploiement IPv6 à 38,8% en moyenne.
Mais ça, c'est un utilisateur, c'est quelqu'un qui a déjà envoyé un paquet IPv6, c'est ça?
Ouais, qui envoie des paquets IPv6. Ouais. Je sais pas quelle est leur méthode de calcul, mais...
Ouais, c'est ça qui est intéressant à savoir. Ça m'étonnerait que
je me souviens d'une conférence fin de l'année dernière où il y avait un opérateur international privé à qui on a posé la question d'IPv6. Je crois d'ailleurs que c'est toi, Nicolas, qui a posé la question sur la quantité de trafic. Et c'était même pas 1%.
Alors, sur le trafic, ouais, ça dépend. Mais en transit, il y a pas mal de trafic, par exemple.
En fait, ce qui est important, c'est les usages, c'est-à-dire combien voilà. T'as de. Quel volume de trafic pour le top 1 million Alexa ça représente. Parce qu'effectivement, tu peux toujours trouver un botnet ou un site de torrent ou machin qui fait l'IPv6, mais globalement, si les 1 million de sites est plus visité sur Internet, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est combien de volume ça représente. Sinon, si là, c'est peanuts, ça veut dire que l'IPv6 n'a pas pris, et puis c'est tout, quoi.
Alors, en fait, là, si on regarde sur les informations Alexa, il y a 45% des qui sont situés aux États-Unis et il y en a 0,38 qui sont IPv6 enabled. Voilà.
Oui.
Quand même.
Ouais, c'est pas top. Ouais.
Ouais, mais ça rejoint les chiffres. Les chiffres qu'on a pu entendre.
Donc en tout, dans le monde, sur les top 1 million de sites, il y en a 1,1% qui sont IPv6 enabled.
Donc si on résume, IPv6, on le jette, ça ne sert à rien, et on passe à IPv8.
Ça, c'est toi qui le dis, moi, j'y crois pas. Hein. Franchement, j'y crois pas.
Non, mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de fond et qui disent, bon, bah, puisqu'on a fait quelques erreurs conceptuelles, effectivement, est-ce qu'il faudrait pas repartir de la feuille blanche? Alors, il y en a qui ont essayé de repartir de la feuille blanche. Le problème, c'est que c'est un travail beaucoup trop colossal d'arriver à constituer une équipe qui refait tout ce qui a été fait. Parce que malgré tous les défauts, il y a une quantité absolument impressionnante de choses qui font que IPv6 fonctionne malgré tout, et on n'arrive pas à refaire tout ça. C'est ça le problème.
C'est ça. Non, mais honnêtement, c'est la critique est aisée, l'exercice beaucoup plus difficile. Hein. C'est toujours comme ça. C'est plus facile de dire c'est nul, ça marche pas, mais faire quelque chose qui marche, ben, c'est compliqué. Hein. La preuve, on est toujours sur IPv4. Ben, on verra.
Non, mais il y a honnêtement, il y a une vraie problématique. Juste pour ne pas conclure que là-dessus, de disponibilité de services, parce qu'on a parlé des clients, mais si on n'arrive pas à avoir un serveur, une adresse IP pour son serveur, comment on fait demain? Et si tu veux développer des nouveaux services, ça va devenir compliqué. Moi, je suis convaincu que c'est de ce côté-là qu'on va avoir des difficultés.
Bon, eh bien, IPv6 est un sujet très, très vaste dont nous reparlerons certainement dans un prochain épisode. D'ailleurs, si vous êtes un spécialiste du sujet, que vous avez un point de vue différent de ce qui vient d'être dit et que vous souhaitez partager avec nos auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter, vous serez le bienvenu. Donc, on espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous dit à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.